J'avoue que par moments, dans notre combat, on échangeait ce matin, les tentations de céder au désespoir sont grandes. Les tentations aussi de confondre deux humanités sont grandes aussi. Et il faut y résister, parce que oui, il y a deux humanités. Il y a une humanité peut-être la plus visible, parce qu'elle est sans scrupules, et qui parfois pourrait nous donner le sentiment que elle est majoritaire. C'est une humanité qui est là pour accaparer le bien commun. Et puis il y a une humanité dont vous faites partie, vous pouvez en être fier, qui elle travaille pour le bien commun. Et c'est celle-là, vers celle-là qu'il faut se tourner, c'est celle-là qu'il faut écouter, c'est celle-là qu'il faut entendre. Et c'est celle-là qui se bat au quotidien pour essayer d'honorer les promesses non tenues de la République. Des promesses d'égalité, des promesses de solidarité. C'est une société discrète, sans quête de reconnaissance, mais qui comble tous les vides, qui crée, qui maintient, qui entretient, qui développe ce lien social si important. La générosité, c'est un outil au service de valeurs, à commencer par une valeur cardinale, qui devra de gré ou de force être le fil guide du XXIe siècle, qui est la solidarité. Le XXIe siècle, chacun le sent dans sa chair, il sera solidaire ou il ne sera pas. Et donc, cette société de l'ombre, entre 13 et 20 millions de bénévoles en France, qui le sait, qui partout maintient, entretient la solidarité de proximité, mais aussi la solidarité à distance. Et donc, c'est cette France-là, cette société-là que vous représentez et moi qui me maintient, je dirais, en vie dans ces moments où nous sommes traversés par une forme de doute. Et il faut garder à l'esprit que cette société-là, ces artisans de la solidarité, du lien social, elle est beaucoup plus nombreuse qu'on l'imagine. Et c'est pour elle qu'il ne faut jamais baisser les bras. Voilà. Et effectivement, Pierre le disait tout à l'heure, comme cette société n'a pas forcément un visage bien identifié, elle a tendance à être ignorée, notamment des pouvoirs publics. Et ce serait, dans le contexte de délitement, une erreur majeure que de l'affaiblir. De l'affaiblir à un moment où le mécénat, au sens originel du terme, a tendance lui-même à être fragilisé. Moi, j'en fais l'expérience dans ma propre fondation. Il y a 30 ans, quand nous avons démarré le vrai mécénat, celui sans contrepartie, simplement que de donner des moyens à l'intérêt général, aujourd'hui, c'est franchement beaucoup plus difficile de le rencontrer et que pour un euro donné, on aimerait bien avoir un euro en retour. Mais ça n'est plus du mécénat, c'est du sponsoring. Alors si, ajouter à cette tendance qui, quelque part, pervertit un peu la notion de mécénat, l'État, qui devrait se réjouir que nous fassions, quelque part, des missions de service public que la République, ne tient plus, eh bien, ce n'est pas le moment de nous fragiliser. Ça n'est pas le moment de fragiliser effectivement la générosité qui est un levier essentiel. Et je suis bien placé comme vous pour voir combien de coups nous prenons depuis quelque temps. La fin de la réserve parlementaire, par exemple, qui permettait aux députés en région, parfois directement, d'aider des associations. La réforme de l'ISF. Et puis maintenant, avec, je trouve, peut-être une audace qui n'est pas loin d'une forme d'ignorance, de mettre cette générosité simplement comme une vulgaire niche fiscale. Je crois que c'est ignorer une forme de réalité. Alors tout ce qui fragilise les outils, les moyens, la volonté de faire vivre cet impératif de solidarité au XXIe siècle est un contresens de l'histoire. Et je me permets simplement de dire pourquoi c'est un contresens de l'histoire. Pourquoi est-ce que je suis intimement convaincu que La solidarité, quelle que soit sa forme, quel que soit son visage, quelle que soit son échelle. Parce qu'il n'y a pas de petite échelle dans la solidarité. Pourquoi c'est un contresens de l'histoire? Parce que la solidarité au XXIe siècle n'est plus une option. Elle est une condition si l'on veut maintenir, garantir, faire durer tout ce qui a de l'importance à nos yeux. Tout ce dont nous avons hérité sans forcément nous être battus pour l'obtenir, les acquis civilisationnels et démocratiques. Pourquoi est-ce que je considère que ça n'est pas une option et que c'est un impératif? Tout simplement parce que la solidarité a changé de substrat. Elle s'est déplacée d'un substrat purement, dogmatique, idéologique ou de valeur, à une sorte de loi physique qui nous tombe dessus en début du XXIe siècle. Je vais essayer de m'expliquer, mais pour moi c'est très important et je pense que c'est une lecture que peut-être certains n'ont pas encore gardée à l'esprit. Qu'est-ce qui s'est passé depuis quelques décennies dans notre univers? Le monde s'est connecté avec une brutalité et une efficacité absolument inouïe. Parce que l'on appelle la mondialisation, ce faux espoir du monde qui a pensé qu'en se mondialisant, nous allions partager, nous allions échanger, nous allions coopérer. Et puis, le monde s'est connecté par cette prouesse technologique qui fait que il n'y a plus un endroit dans le monde, aussi éloigné soit-il, qu'il n'ait pas une fenêtre sur le reste du monde. Et donc, le monde s'est connecté, mais il a oublié l'essentiel pour l'instant, il ne s'est pas relié. Donc on n'a fait que la moitié du chemin. Mais en se connectant, on aurait pu imaginer que nous allions pouvoir, à minima, réduire les inégalités, quelles qu'elles soient, pas simplement les inégalités économiques, les inégalités d'espérance de vie, les inégalités d'accès à l'éducation, aux soins. Et chacun sait qu'aujourd'hui, le déterminisme dans l'univers vaut pour 40% de l'endroit où vous naissez, de 40% de la famille dans laquelle vous êtes né, et simplement de 20% pour votre mérite personnel. Mais tant que ça ne se sait pas, tant qu'une femme en Afrique, mais pardon, je pourrais prendre un exemple dans notre territoire, ignore que son enfant va mourir d'une maladie dont on a le remède ailleurs, elle met ça sur le compte de la fatalité, et elle s'incline, ça n'enlève rien à son chagrin. Mais lorsqu'elle découvre qu'en réalité, par un mauvais sort, on a été capable d'emmener dans son village une bouteille de Coca-Cola, mais pas un traitement antipaludéen, vous ajoutez à l'exclusion un élément explosif qui est l'humiliation. Et c'est ça qui change la donne au XXIe siècle, c'est que tout se voit et tout se sait, et les exclus ont vu sur les inclus. Et cette humiliation est insupportable et incompatible avec une espérance de paix. Et donc, voilà pourquoi la solidarité, qui est un principe originel de l'évolution de la vie, puisque la vie a été solidaire depuis des centaines de millions d'années, et nous ne pouvons pas rompre avec ce principe originel. Voilà le message que je voulais faire passer, c'est que le XXIe siècle sera solidaire. Ou, comme le disait Malraux sur un plan spirituel, mais d'ailleurs les deux notions se rejoignent, ou ne sera pas. Et donc, quelque part, tout ce qui compromet, tout ce qui entrave, tout ce qui étouffe la solidarité, est évidemment à bannir. C'est pour ça aussi que l'enjeu écologique et l'enjeu économique et l'enjeu social sont indissociables. Comment peut-on construire un modèle qui partage si on s'accommode d'un modèle qui épuise ou d'un modèle qui concentre? Et donc il y a des règles communes que nous devons établir et l'on doit faire vivre cette solidarité. Et en faisant vivre cette solidarité, eh bien, comme le révélait Victor Hugo dans Les Misérables, eh bien, nous ferons développer cette vertu qui fait que l'amour transforme le plus miséreux en héros de la vie. Et vous êtes tous des héros de la vie. Merci beaucoup.